Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Bienvenue sur la Voix des Arts. Nous allons rester en Espagne encore cette fois-ci pour rencontrer d'autres artistes femmes créatrices. Après nos passionnariats de la dernière émission, des écrivaines contestataires impliquées socialement et politiquement pour défendre les droits de l'homme et de la femme, comme Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal ou Carmen de Burgos Issegui, voyons à qui nous avons affaire aujourd'hui. Alors là, j'arrive à la fin du XIXe siècle. Vais-je réussir à m'y maintenir avant qu'une autre femme surgisse encore du passé pour me tirer en arrière et s'exprimer à travers ma voix? Mais je vois qu'il arrive vers moi une écrivaine espagnole qui, elle, est née à la toute fin du XIXe siècle, en 1898 à Valladolid, et qui se nomme Rosa Chassel. Alors, qui est-elle? Qu'a-t-elle fait? Eh bien, elle a commencé par étudier l'art, apparemment la sculpture, à l'école des beaux-arts de San Fernando à Madrid, où elle rencontre son futur mari, le peintre Timor Pérez Rubio. Alors, pendant ses années d'études, elle fréquentera à Madrid les cercles d'artistes, d'écrivains, d'intellectuels. J'ai lu qu'elle commencera elle aussi à discourir sur le féminisme, comme quoi aucune de ces femmes aspirant à l'équité et à la liberté n'y échappait. Mariée en 1921, elle s'installera avec son mari à Rome, où il est nommé dans une école d'art. Bon, apparemment, Rosa Chassel, c'est quelqu'un qui bougera beaucoup d'un pays à l'autre, de gré peut-être, mais aussi de force, parce que les événements l'y obligeront. Bon, déjà, elle fuira l'Espagne avec son mari après l'échec des Républicains. Une fois à Paris, c'est la guerre 39-40 qui la chassera de nouveau. Aussi partira-t-elle s'installer en Argentine, puis ensuite ce sera au Brésil, mais en faisant des allers-retours d'une ville à l'autre. Et elle partira également vivre 2 ans à New York en 1959, grâce à une bourse de création accordée par la Fondation Guggenheim, qui est une organisation mécène d'art célèbre. Et elle reviendra surtout en Espagne à partir des années 70, après le décès de son mari. Et entre-temps, elle aura écrit des romans, des contes, de la poésie, une production plutôt importante, ce qui peut se comprendre, car c'est quelqu'un qui vivra jusqu'à un âge avancé, puisqu'elle décédera en 1994 à 96 ans. Alors, son premier roman intitulé Estación Ida y Vuelta, que l'on peut traduire par station ou gare aller-retour, sera publié en 1930, l'année où elle mettra au monde son enfant. Et son roman, Mémoire de Laetitia Vallée, de 1945, sera porté à l'écran. Alors elle sera également récompensée par quelques beaux prix, même si sa reconnaissance fut tardive. Par exemple, le prix de la critique en 1976 pour un ouvrage intitulé Barrio de Maravillas, qui signifie quartier des merveilles, et le prix national des lettres espagnoles en 1987 et d'autres encore. Et entre autres activités littéraires, elle était aussi traductrice, car elle a traduit Albert Camus et Racine, ce qui n'est pas rien. Alors une partie de son œuvre semble tourner autour de la femme et du rôle des femmes au travers de l'histoire. Les informations que j'ai glanées ne m'ont pas totalement satisfaite. Quant à la poésie que j'ai trouvée, traduite en français, je ne peux pas dire que je suis assez convaincue pour vous en lire un extrait. C'est vrai que je n'aime pas trop les traductions. Bon, en tout cas, c'est une poétesse de plus, espagnole de surcroît. Je dis cela pour les personnes qui s'étonnaient de l'absence de femmes poètes dans le paysage littéraire. Et je m'adresse plus particulièrement à un espagnol de mes connaissances. Alors voici une autre écrivaine espagnole, née la même année en 1898 à Madrid, nommée Goncha Méndez, née Concepción Méndez Cuesta, une poétesse, encore une, dramaturge de surcroît. Alors elle aussi, il semblerait qu'elle ait beaucoup voyagé, a été exilée en passant par Cuba et le Mexique. Alors elle s'est aussi liée d'amitié, voire d'amour avec des célébrités espagnoles. Elle fut la petite amie du réalisateur de cinéma Luis Buñuel, qui était proche de Dali et qui avait tourné Le Chien andalou, entre autres. Elle épousera par la suite, en 1932 à 34 ans, le poète Manuel Alto Laguirre, et tous deux sont devenus par la suite imprimeurs. Alors, dans son cercle amical, elle fréquentait le poète Luis Cernuda, l'écrivain Federico Garcia Lorca et d'autres encore plus ou moins connus. Alors, comme Rosa Chassel, il semblerait que Concha Méndez faisait partie d'un groupe littéraire né en Espagne et surnommé la Génération de 27, ce qui signifie que, comme beaucoup d'artistes de ces époques, ce groupe prenait un renouveau artistique et ses membres partageaient des idées avant-gardistes. Alors Rosa Chassel est une plume et une voix poétique parmi les autres, mais qui rencontra les difficultés des femmes que l'on ne conçoit que comme amies, épouses ou mères, mais difficilement comme créatrices à part entière, malgré l'importance et ou la qualité de leur production. Alors j'ai lu, est-ce vrai? C'est tout à fait plausible, dans un texte où est évoquée son enfance, qu'un ami de ses parents avait demandé aux enfants ce qu'ils voulaient faire plus tard, et elle aussi, comme les garçons avaient exprimé son souhait, qui était « Je veux être capitaine de navire ». Et en effet, dans sa naïveté enfantine, elle affirmait ses goûts sans souci de son sexe, parce qu'elle aimait la mer et voguer sur des bateaux tout simplement. Et cet ami de la famille lui aurait rétorqué « Les filles ne sont rien ». Bon, ce qui apparemment l'a marquée et l'a motivée à se libérer d'une tutelle quelconque, tant que faire se peut, puisqu'elle est partie toute seule à l'étranger, notamment en Angleterre, à la conquête de son destin. Alors on sent bien que ses départs étaient des tentatives pour s'affranchir, et quand elle est revenue, elle s'est quand même mariée au poète Alto Laguirre et a donné naissance à une fille. Bon, ensuite, elle s'installera au Mexique en 1944 pour mourir en 1986 à l'âge de 88 ans. Alors, quoi qu'il en soit, elle publiera son premier recueil intitulé Concerne à 26 ans. 2 ans plus tard, elle publiera Supplier, puis encore un autre recueil en 1930 intitulé Chant de la mer et de la terre, et elle continuera ainsi sur sa lancée. Et elle publiera également des pièces de théâtre à la fois pour adultes et pour enfants. Alors nous allons faire une petite pause musicale. La musicienne dont nous allons écouter la création est une Valencienne née en 1918 qui se nomme Mathilde Salvador. Elle est née dans une famille de musiciens. Son père faisait du violon. Sa tante Joaquina Segarra était une pianiste réputée. Elle-même commencera à composer à l'âge de 15 ans une chanson et elle donnera son premier concert à Valence en tant que pianiste à l'âge de 18. Il paraît que le grand compositeur espagnol Manuel de Falla l'encouragera aussi dans la poursuite d'une carrière musicale. Entre-temps, elle se mariera avec un compositeur qui était son professeur d'harmonie au conservatoire et qui se nomme Vicente Asensio. Et d'après ce que j'ai lu, tous deux sont les artistes musiciens les plus représentatifs de la ville de Valence. Alors elle poursuivra donc une carrière de compositeur. Son premier opéra s'intitule La Fia del Rey Barbu. D'autres suivront par la suite avec des pièces de scène pour ballet, des cantates, également de la musique religieuse, diverses pièces chorales et plus de 150 chansons. Un type de musique qu'elle imposait comme un genre à part entière. Bref, elle est à l'origine d'une production conséquente dont le style reste classique, mais qui sera appréciée, diffusée, récompensée de plusieurs prix. Et elle finira sa carrière comme enseignante au Conservatoire de musique de Valence, pour s'éteindre dans sa ville à l'âge respectable de 89 ans. Alors elle laisse une trace non négligeable de son passage dans sa ville et sa province valencienne, puisque des témoignages de reconnaissance lui sont apportés par la ville de Valence, qui a déjà nommé son centre culturel Mathilde Salvador, et que des rues et des écoles portent également son nom. Et quant à sa musique, ben, je vous l'ai dit, elle est toujours interprétée dans le monde entier par des artistes de renom. Mais place maintenant à la musique de Mathilde Salvador, et je vous propose d'écouter un prélude interprété à la guitare et intitulé « Hommage à Mistral ». Romancière, également essayiste, dramaturge, toujours espagnole, se présente sous le nom de María Teresa León, née en 1903 à Logroño. Alors déjà, j'ai lu que sa tante, María Guari, G-O-Y-R-I, je ne sais pas comment on prononce, fut la première femme espagnole à obtenir un doctorat en philosophie et en lettres, et elle-même fut licenciée dans ces matières. Alors, elle est issue, en tout cas, d'un milieu cultivé où la littérature occupait une large part. Et elle s'en est d'ailleurs nourrie, appréciant des littérateurs aussi bien espagnols qu'étrangers. Bon, cependant, elle se mariera très jeune. Hein. Ce n'est pas la première Espagnole à se marier très jeune, à peine sortie de l'enfance. Vous vous en êtes rendu compte, hein, car elle aussi se marie à l'âge de 16 ans pour faire deux enfants, ce qui ne l'empêchera pas de s'enfuir une petite dizaine d'années plus tard avec un poète dramaturge espagnol engagé politiquement et antifasciste nommé Rafael Alberti, pour l'épouser peu de temps après, avoir une fille avec lui et rester à ses côtés tout le restant de sa vie pour au moins une soixantaine d'années. Et c'est son union avec Rafael Alberti qui lui donnera l'opportunité d'exercer pleinement et d'après ce que j'ai compris avec détermination son droit de divorcer de son premier mari. Mais à cause du divorce, elle sera déchue de ses droits maternels car elle ne pourra revoir ses deux garçons que plusieurs années après. Alors elle sera de toute façon, comme ses autres concitoyennes féministes, une militante de l'égalité homme-femme et s'attachera en outre à promouvoir la culture au service également de causes politiques puisqu'elle créera par exemple les guérillas du théâtre pour diffuser Cervantes, Molière, Lorca ou Tchekhov. Et elle s'engagera d'ailleurs en politique en adhérant au Parti communiste ou en défendant la Seconde République espagnole. Et elle deviendra en outre secrétaire de l'Alliance des écrivains antifascistes et organisera des réunions en 1937 à Paris et à Valence. Alors la politique semble être son moteur pour la faire agir et réagir. Et en cela, elle s'accorde très bien avec son époux, Rafael Alberti, qui apparemment n'avait pas non plus à ce sujet les deux pieds dans le même sabot, si je puis m'exprimer ainsi. Et on peut dire qu'elle mêlera le culturel et l'art à ses combats politiques. Et dans ce parcours très engagé, elle aura aussi rencontré de nombreuses célébrités du monde artistique et culturel espagnol ou étranger, entre autres Picasso, Chagall, Aragon, Garcia Lorca, pour ne citer qu'eux. Alors la fin de la guerre civile espagnole l'oblige à s'exiler, c'est ainsi qu'elle traversera différents pays pour finir par s'installer en Argentine pendant une vingtaine d'années, puis en Italie. Et elle ne reviendra en Espagne qu'après la fin de la dictature franquiste dans les années 70 et elle mourra dans son pays natal à l'âge de 85 ans. Quant à l'écriture, Maria Teresa León manifestera ses dispositions déjà très jeune, à 15 ans, en publiant des récits dans un journal, le Diaros de Burgos, et ensuite elle poursuivra sa carrière en parallèle de celle de Rafael Alberti, mais sera éclipsée par la renommée de celui-ci, et ceci malgré l'abondance de sa production. Et d'ailleurs, elle se qualifiera elle-même de queue de comète de Rafael Alberti. Alors, sa littérature éclectique et fournie propose des romans, des nouvelles, des histoires pour enfants, des biographies, pièces de théâtre, scénarios pour le cinéma, sans compter les articles que Maria Teresa León aura produits en tant que journaliste, plus nombre de traductions. Alors je citerai quelques ouvrages, c'est par exemple un conte intitulé Rosa Fria, patineuse de la lune, écrit en 1935, ou Contre vents et marées de 1941, ou Les pérégrinations de Teresa de 1950, ou encore Cervantes, le soldat qui nous a permis de parler de 1978 et tant d'autres encore. Mais il semblerait que son livre majeur, celui qui remporte tous les suffrages, soit une autobiographie intitulée « Memoria de la Mélancolia », que je traduis « Mémoire de la mélancolie », qui est un ouvrage qui traite de cette période de l'histoire de l'Espagne avant ou au moment de la guerre civile, sous ses aspects sociopolitiques, culturels, même artistiques, où l'expérience de l'exil serait relatée au travers du regard de l'écrivaine, ce qui apporte à ces événements une tonalité particulière, car elle était totalement impliquée dans l'histoire de son pays. D'ailleurs, je crois que c'est dans ce livre qu'elle relate l'évacuation de tableaux de maîtres à Tolède ou d'autres lieux d'Espagne afin de les mettre sous protection lorsque la guerre d'Espagne opposant nationalistes et républicains éclatera en 1936. Alors ne pensez pas que nous allons nous arrêter en si bon chemin. En Espagne nous sommes, en Espagne nous resterons, car ces dames énergiques à la langue bien pendue et à la plume acérée se bousculent, j'allais dire au portillon de la Voie des Arts, en tout cas elles ne sont pas prêtes de me lâcher, moi non plus d'ailleurs. Mais accrochez-vous, vous aussi, car j'en ai encore quelques-unes à vous présenter. Alors je voulais reprendre quelques forces en faisant une petite pause musicale, histoire de reposer un peu ma voix et vous laisser digérer. C'est bien, je suis en train de réveiller Johan. Eh bien non, car un nombre conséquent de compositrices espagnoles s'avancent vers moi, qui ne me laisseront pas en paix tant que je ne vous les aurai pas présentées. Tu peux te reposer, Johan, si tu veux. Malheureusement, nous ne pourrons pas écouter la plupart d'entre elles, car je n'ai pas trouvé de musique à disposition. Bon, vous avez quand même écouté dans cette émission Mathilde Salvador, l'émission précédente Soledad Bengoechea, qui était née à Madrid en 1849, si vous vous rappelez. Un an après, naissait dans la même ville Dolores Beniz de Bermudez, mais je n'ai hélas pas trouvé d'informations sur elle. Quant à celles qui suivent, la plupart sont nées courant 19e siècle, comme par exemple Aurelia Rosa Calvé, qui est née en 1856 à Barcelone, qui était fille d'un musicien spécialisé en chant choral. Celui-ci l'aurait incité à poursuivre dans cette voie. Elle étudiera le piano et deviendra professeure de piano au Conservatoire de Barcelone, et elle composera quelques pièces, mais participera surtout à mettre en forme les œuvres paternelles. Bon, il y a également Narcisa Freixas, née à Sabadell en 1860, également liée au monde du chant choral, puis Carmen Carr de Alfonsetti, qui est née à Barcelone en 1865, et en plus de composer des chansons catalanes, elle était également musicologue. Elle était aussi écrivain, puisqu'elle écrira plusieurs romans, des livres pour enfants, des pièces de théâtre, également journaliste et militante féministe impliquée et active de surcroît. Elle participera à diverses revues, notamment l'une d'elles destinée aux femmes et intitulée « Féminale ». Bon, c'est quelqu'un qui milite, qui prend la parole lors de conférences. Elle dirigera entre autres le pavillon des femmes à l'exposition universelle de 1929 à Barcelone pour montrer le rôle actif des femmes espagnoles dans leur pays. Ensuite, nous arrive Ascensión Martínez Ramírez, qui est née à Badajoz en 1865 et aurait composé musique de chambre, symphonie ou de théâtre lyrique. Puis voici Luisa Casagema Sicol. Dans certaines biographies, elle serait née en 1863 et dans d'autres en 1873. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une catalane. Elle est sœur du peintre Carlos Casagemas, qui lui serait née en 1880. Bon, c'est donc plus plausible que Luisa soit née en 1873. Alors son frère est connu pour sa peinture, d'accord, mais aussi parce qu'il était l'un des plus proches camarades de Picasso. Ils étaient, paraît-il, à un moment inséparables, et Picasso l'aurait immortalisé sur sa toile, allongé sur son lit de mort, peint et auréolé de bleu. Alors il est dit d'ailleurs que c'est depuis ce tableau que Picasso aurait amorcé sa période bleue. Et le tragique de l'histoire, c'est que Carlos Casagemas s'est suicidé à 20 ans suite à un dépit amoureux. Quant à Luisa Casagemas Sicol, il est dit qu'elle était une enfant prodige, évidemment, de par sa précocité et ses belles dispositions pour la musique. Elle a étudié l'harmonie, le chant, le violon et la composition, et elle exprimera ses dispositions déjà à l'âge de 16 ans en composant un opéra fantastique en 3 actes intitulé Chiava et Regina, qui sera récompensé au concours universel de l'exposition de Chicago en 1892 et programmé notamment au théâtre de Liceo de Barcelone en 1893, sauf qu'un attentat anarchique empêche le concert. Mais quelques fragments auront l'occasion d'être joués au Palais Royal auprès de la famille royale espagnole. Et d'autre part, une œuvre symphonique intitulée Twilight sera jouée par l'orchestre catalan au Théâtre Lyrique de Barcelone. Alors, elle aurait cessé ses activités musicales dès son mariage, aurait enfanté 5 enfants, dont 4 décéderont d'une épidémie, et c'est veuve qu'elle reviendra à la musique. Alors, elle poursuivra sa carrière de compositrice et aussi de chanteuse et de pianiste auprès du public, notamment en se produisant dans les salons de l'écrivaine Emilia Pardo Bazán, dont j'ai relaté la biographie et présenté le travail dans l'émission précédente, la numéro 61 de La Voix des Arts, si vous avez écouté. Alors, qu'a-t-elle écrit ? Des musiques de scène, c'est-à-dire des opéras, de nombreuses musiques pour chant et piano, des symphonies, de la musique de chambre, des œuvres sacrées. En tout, elle aurait composé plus de 300 œuvres tombées pour la plupart dans l'oubli, ce qui aurait pu être son cas elle aussi, sans les recherches assidues de musicologues ou d'universitaires barcelonais passionnés. Et il semblerait que cette compositrice soit remise au goût du jour depuis les années 2010 en Espagne. Alors c'est encore Maria Luisa Chevalier-Supervielle, née à Madrid en 1869. Elle est d'origine française avec la nationalité espagnole. Elle aussi étudiera la musique très jeune au Conservatoire de Madrid. Des études brillantes qui l'amèneront à se produire au piano à Pleyel à Paris dès l'adolescence. Elle continuera à se perfectionner dans toutes sortes de matières musicales pour donner des concerts prestigieux en France et en Espagne, et notamment devant la cour royale, et c'est en parallèle de sa vie de pianiste qu'elle composera. Et d'après ce que j'ai encore lu, elle était l'épouse d'un poète nommé Eduardo del Palacio, et sa fille suivra ses pas, car elle deviendra, comme elle, une brillante pianiste. Alors nous allons nous quitter ici, je vais réveiller Johan. Je vous ai apporté beaucoup d'informations, mais il est vrai que le sujet est plus complexe que je ne le pensais de prime abord et que les femmes artistes, notamment les Espagnoles, sont assez étonnantes. Elles arrivent en force, en intensité, j'allais dire en trombe, mais c'est presque cela. En tout cas, je crois que vous en avez rencontré assez pour aujourd'hui. Ménageons-nous pour la suite, car elles nous attendent de pied ferme, n'en doutons pas, au détour de La Voix des Arts. Sur ce, merci de votre écoute. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.